VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 13 juin 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En visite à Sobane, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a appelé la population à ne pas se livrer à des actes de vengeance. Deux hauts représentants américains étaient à Khartoum pour favoriser la reprise de pourparlers entre les généraux et la contestation. Le virus Ebola a fait une deuxième victime dans l'ouest de l'Ouganda. Deux pétroliers norvégiens et japonais ont été attaqués en mer d'Oman, dans le Golfe. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a demandé aux populations de Sobanda de ne pas tomber dans l'esprit de vengeance. L'État prendra des nouvelles mesures pour votre sécurité. Il y aura une rencontre très bientôt sur le centre, a dit le chef de l'État lors de sa visite dans le village ce matin. Il s'est recueilli sur les tombes des 35 victimes. Kassim Traoré nous en dit plus.
Pour ce déplacement dans le village de Soban, le président Ibeka avait dans sa délégation le cardinal Jean Zerbo de l'Église catholique du Mali, car le village de Soban est à 100% chrétien. Et c'est le cardinal qui a dirigé le rituel de recueillement aux morts avant la visite du village, dont une grande partie a été détruite par les assaillants le dimanche dernier. Puis il y a eu les échanges avec la population. Ibeka a présenté ses condoléances et celles de la nation aux populations de la dite commune. Le président Ibeka a demandé aux populations de Soban de ne pas tomber dans l'esprit de vengeance. L'État prendra de nouvelles mesures pour votre sécurité. Il y aura le désarmement des milices. Personne ne circulera avec les armes sans être militaire. Nous allons bientôt aussi organiser une rencontre sur le centre, a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta. Les populations de Soban ont remercié le président pour son déplacement, mais elles ont insisté sur la sécurité, surtout en cette veille de saison hivernale, parce qu'il y aura beaucoup d'activités culturelles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis, Tibor Nagy, était à Khartoum ces deux derniers jours. Il a rencontré les représentants du mouvement de contestation et les militaires au pouvoir. Les États-Unis ont aussi nommé un émissaire spécial pour la crise au Soudan, le diplomate Donald Booth. Patricia Huon, sur place dans la capitale soudanaise, nous en dit plus.
Les États-Unis tentent de faire pression afin de relancer un dialogue au Soudan. Si leur influence est limitée à Khartoum, ce n'est pas le cas de pays qui lui sont traditionnellement alliés, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes qui soutiennent la junte soudanaise. La coalition d'opposition continue elle de réclamer que les militaires acceptent de partager le pouvoir avec les civils. Elle a déclaré qu'avant de retourner à la table des négociations, elle veut que les conditions qu'elle a posées soient remplies, notamment le rétablissement d'Internet, la libération des prisonniers politiques et l'ouverture d'une enquête pour le massacre du 3 juin devant le siège de l'armée à Khartoum. Suite à la suspension du mouvement de désobéissance civile, l'activité a repris dans les rues de la capitale, les magasins sont ouverts, la circulation est presque de retour à la normale, mais l'inquiétude demeure parmi la population et le moral est bas. Patricia Huon, Khartoum pour VOA Afrique.
Par ailleurs, le Conseil militaire de transition a reconnu pour la première fois avoir ordonné la dispersion d'un sit-in de contestataires début juin à Khartoum, qui a fait des dizaines de morts. Nous regrettons que des erreurs se soient produites, a déclaré le général Shamseddine Kabashi, porte-parole de cette instance. Au moins 50 personnes sont mortes ces derniers jours dans des tueries dans la province de l'Ituri en RDC, a indiqué le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. L'on se rend compte qu'il y a d'autres cas, a-t-il précisé, tandis que d'autres sources évoquaient 70 morts. Les violences qui ont commencé vendredi et se sont amplifiées à partir de lundi touchent le territoire de Djougou, au nord du chef-lieu Bounia. En Ouganda, le virus Ebola a fait une deuxième victime. Les autorités s'efforcent de contenir cette épidémie apparue en août dernier en RDC, où elle a déjà fait plus de 1300 morts. John Linden nous en dit plus.
La deuxième victime décédée hier soir est la grand-mère du garçon de 5 ans, mort 24 heures plus tôt à Bouira, dans le district de Kasese, frontalier de la RDC. Les deux victimes avaient assisté avec d'autres membres de la famille à des obsèques en République démocratique du Congo d'un proche décédé d'Ebola. Toute la famille est rentrée en Ouganda où le ministère de la Santé les avait placés en quarantaine après avoir diagnostiqué une contamination de deux enfants de 5 et 3 ans et de leur grand-mère de 50 ans. 8 autres personnes qui ont été en contact avec eux ont également été placées en observation à l'isolement. 27 personnes sont mises sous stricte surveillance. Selon l'OMS, l'Ouganda a déjà vacciné près de 4700 membres du personnel de santé avec un vaccin expérimental. Une nouvelle campagne de vaccination doit se tenir ce vendredi selon le ministère ougandais de la Santé. L'Ouganda s'est placé en état d'alerte depuis le début de l'épidémie en août 2018 dans l'est de la RDC où plus de 2000 cas d'Ebola ont été enregistrés. Les deux tiers de ces malades sont morts. Quelques 25 000 personnes transitent quotidiennement par le principal poste frontière entre les deux pays.
Par ailleurs, le chanteur et député d'opposition ougandais Bobi Wine s'est dit prêt à défier le président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021, appelant de ses voeux à une révolution pacifique. « Si mon équipe estime que je suis la bonne personne pour défier le président, je suis prêt à m'en charger », a déclaré l'élu de 37 ans. La constitution ougandaise a été modifiée afin de supprimer la limite d'âge pour briguer la présidence, autorisant ainsi M. Museveni à se présenter pour un sixième mandat en 2021. L'ancien Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a été écroué après son audition dans le cadre des enquêtes anticorruption au lendemain de l'emprisonnement d'un autre ancien chef du gouvernement, Ahmed Ouyaïa. Depuis le début du mouvement de contestation, la justice a écroué plusieurs hommes d'affaires soupçonnés d'avoir profité de leur lien avec l'ex-président Bouteflika pour obtenir des marchés publics. Les États-Unis ont salué la dépénalisation des relations homosexuelles au Botswana, où la justice a annulé mardi l'interdiction de l'homosexualité, qui est illégale dans plus de la moitié des pays subsahariens. Le mois dernier, le Kenya a refusé d'abroger les lois réprimant les relations homosexuelles. À l'échelle mondiale, au moins 67 pays ou territoires criminalisent l'homosexualité selon l'ONU-SIDA. Au moins 385 éléphants ont été victimes de braconnage dans le nord du Botswana entre 2017 et 2018, selon une étude d'éléphants sans frontières. Dans la revue scientifique Current Biology, l'ONG dit avoir découvert des preuves d'un problème croissant au Botswana. Comparant avec les résultats de recensement de 2014, l'organisation souligne avoir enregistré une hausse de 593% du nombre de carcasses récentes de pachydermes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les attaques commises contre des navires civils dans le Golfe lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la coopération entre les Nations Unies et la Ligue arabe. Le point avec Michel Joseph.
Je condamne toute attaque contre des navires civils, a dit le patron de l'ONU, soulignant que le monde ne pouvait se permettre un conflit majeur dans le Golfe. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abulgeit, a dénoncé le ciblage de pétroliers et les attaques au cœur de l'Arabie saoudite avec missiles qui, selon lui, sont une évolution dangereuse. Deux pétroliers, norvégiens et japonais, ont été la cible jeudi d'une attaque d'origine indéterminée en mer d'Oman, une région déjà sous haute tension à cause de la crise entre les États-Unis et l'Iran. Il y a un mois, des attaques s'étaient produites contre 4 navires, dont 3 pétroliers au large des Émirats Arabes Unis, acte pour lequel Téhéran a été montré du doigt par Washington. L'Iran a démenti toute implication. Dans un rapport préliminaire d'enquête, les Émirats Arabes Unis ont estimé que ces attaques étaient l'œuvre d'un acteur étatique sans l'identifier.
En Afghanistan, un attentat contre un poste de police à l'entrée de Jalalabad a fait au moins 11 morts selon les autorités. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat commis par un kamikaze à pied qui a fait exploser sa charge. L'hôpital provincial a indiqué que 13 personnes ont été blessées. Et sachez qu'un fossile de grand dinosaure herbivore, cousin du Diplodocus qui était proposé aux enchères à Paris, n'a pas trouvé preneur. Ce squelette du Jurassique, vieux de 150 millions d'années, était estimé entre 1,2 et 1,8 millions d'euros hors frais par une maison d'enchères française. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique à présent dans la Minute Éco, présentée par Nanit Talani.
Le Fonds monétaire international approuve le décaissement de 248,15 millions de dollars au titre de facilité de crédit en faveur de l'Angola. Selon cette institution financière, les autorités de Luanda ont démontré leur ferme attachement aux politiques du programme soutenu par le FMI. Cependant, un environnement extérieur affaibli, notamment la volatilité accrue du prix international du pétrole brut, constitue un défi pour leurs efforts de réforme. L'Éthiopie pourrait avoir besoin de 2,2 milliards de dollars pour moderniser son secteur des télécommunications en crise. D'ailleurs, le Parlement doit débattre ce jeudi d'une loi créant un nouveau régulateur de ce secteur. Le gouvernement éthiopien envisage d'octroyer des licences à des multinationales de la téléphonie mobile d'ici décembre, dans l'espoir qu'elles seront opérationnelles l'année prochaine. Ces efforts pour créer un environnement propice aux investissements privés pourraient aider le pays à rééquilibrer son économie. Pour terminer, la Tunisie va recevoir du Fonds monétaire international 24 millions de dollars au titre de la sixième revue du programme du mécanisme élargi de crédit. Ce nouveau décaissement ouvre la voie à l'émission par le pays de 800 millions de dollars d'euros obligations destinées à financer le déficit budgétaire du pays qui devrait atteindre 3,9% du PIB cette année contre environ 5% l'an dernier.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Haris Belkebla a été exclu de la sélection algérienne pour la CAN 2019.
Oui, le milieu de terrain de Brest a été mis à l'écart pour raisons disciplinaires après avoir exhibé son postérieur sur Internet d'après la Fédération algérienne. Alors que un de ses coéquipiers jouait à un jeu en ligne sur un réseau, Belkebla apparaît à l'écran et se déculotte visiblement pour le déconcentrer. La Fédération algérienne de football précise que la décision du sélectionneur Jamel Belmadi a pour but de maintenir la discipline au sein du groupe. Le nom du remplaçant d'Haris Belkebla n'a pas officiellement été communiqué, mais la presse algérienne affirme que c'est le milieu de l'USM Alger, Mohamed Ben Kemissa, qui a été choisi.
Sur le marché des transferts, Moussa Djenepo rejoint Southampton.
L'ailier malien a quitté la Jupiter Pro League pour le championnat d'Angleterre. Sauvé in extremis en Premier League cette saison, Southampton a officialisé l'arrivée de Moussa Djenepo. Après 2 ans et demi passés au Standard de Liège, il a paraphé un contrat de 4 ans contre environ 17 millions d'euros. Présentement en stage de préparation pour la CAN avec les Aigles maliens, Moussa Djenepo va rejoindre son nouveau club après la compétition. Autre nouvelle de transfert, le latéral franco-sénégalais de l'Olympique lyonnais, Ferland Mendy, a signé au Real Madrid pour les 6 prochaines années contre 48 millions d'euros hors bonus.
La prochaine saison de la Première Ligue commence en août.
Le double champion en titre Manchester City commencera sa nouvelle saison face à West Ham le 10 août. Le champion d'Europe en titre Liverpool aura l'honneur d'ouvrir la saison dès le 9 en accueillant le premier Norwich. Les Reds retrouveront les mancuniens de Pep Guardiola en novembre à Anfield. Manchester United accueillera une équipe de Chelsea qui commencera sa vie sans Eden Hazard pour le choc de la première journée. Arsenal se rendra lui à Newcastle. Tottenham, le finaliste malheureux de la Ligue des Champions, affrontera un autre promu Aston Villa avant de se rendre à Manchester pour y affronter les Citizens lors de la deuxième journée.
NBA, le diagnostic redouté est tombé pour Kevin Durant.
L'ailier de Golden State souffre d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite et sera éloigné des parquets pendant de longs mois. Durant 30 ans, s'est blessé lors du match numéro 5 de la finale entre Golden State et Toronto. Sa blessure a déclenché une polémique car il n'avait plus joué depuis un mois et soignait une blessure au mollet droit depuis le 8 mai. Certains observateurs ont accusé les Warriors d'avoir avoir joué avec sa santé, une accusation que Durant a lui-même balayée après son opération, apportant son soutien à son équipe qui est menée 3-2 avant le match numéro 6 ce soir dans sa salle.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta était à Sobanda ce matin, notamment pour présenter les condoléances de la nation aux populations de la localité qui ont été victimes de tueries. Mamadou Bokoum nous en dit plus.
Cette visite du président Ibrahim Boubacar Keïta intervient à un moment où les populations de Sobanda sont en train de faire leur deuil. Ibeka était venu présenter les condoléances de la nation à cette population meurtrie. Il a appelé à l'union sacrée.
Je pense que le temps du sursaut largement venu. Ce que nous avons vu sera justement exploité à tous égards. Pour l'heure, je dirais simplement que les regards ne se tournent pas vers où ils ne doivent pas se tourner. Il n'y a aucune espèce de conflit interethnique dans notre pays. Et les jours qui viennent, nous en aurons encore la preuve. Qu'il y ait des manipulations et des actes odieux aux fins de déstabiliser le Mali, oui. Mais ceux-là seront contrecarrés, ces actes-là. Ils seront contrecarrés et de la plus belle des façons. Je crois que nos équipes à l'œuvre, aussi bien les équipes du pôle antiterroriste que nos forces armées et de sécurité, tous sont déterminés à ce que nous touchions du doigt, ce qui, dans ce centre Mali, empêche notre pays de tourner en rond. Que nous soyons en train d'aller vers l'épilogue d'un temps très très douloureux pour le Mali. Encore une fois, en m'inclinant pieusement sur la mémoire de tous ceux qui ont été martyrisés à ce moment-là et qui ont perdu la vie dans des conditions d'inhumanité absolue. Que tout cela nous serve de leçon pour que nous opérions le sursaut salvateur. Ce sursaut seul qui, au jour d'aujourd'hui, doit être le souci de tous les Maliens, la survie du Mali.
Sobanda est un village à 100% catholique. C'est pourquoi le cardinal Jean Gerbeau a effectué le déplacement avec la délégation présidentielle. L'archevêque de Bamako rappelle les valeurs ancestrales et demande aux uns et aux autres de se pardonner.
Moi, ce que je voudrais que l'on retienne, c'est que c'est quelque chose d'assez grave. Parce que quand on parle des conflits qui sont donnés là, et j'ai eu l'impression que ces conflits viennent du fait qu'on a plus de respect pour nos valeurs ancestrales. Le Sénoukouya, les bons voisinages. C'est vrai, vivre ensemble est difficile. Mais que ça atteigne ce seuil-là, où ce n'est plus un mort, ce n'est plus deux morts, c'est par trentaine. Mais c'est extrêmement grave. Même si c'était un seul mort, c'était trop. Alors venir en ce lieu, c'est d'abord donner une occasion de recommander au Seigneur toutes les victimes. Depuis le début de ce conflit, du Nord, qui parcourt tout le Mali maintenant et qui se concentre aussi dans cette zone de Mouto, Kidal et la région de Mopti. Toutes les victimes, civiles, militaires, quelles que soient leurs fonctions. Nous pensons aussi justement aux familles, nous pensons aux orphelins. C'est tout ça que je revoyais aujourd'hui.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est ensuite rendu à l'hôpital Sominé Dolo au chevet des malades de l'attaque de Sobanda pour les apporter le soutien de l'État. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Sachez que l'axe Cotonou-Parakou au Bénin a été bloqué. Plus aucun véhicule ne passe sur cette route qui relie le nord au sud du pays. Il y a eu plusieurs incidents signalés à Tchaourou, le village natal de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Monsieur Boni est dans une résidence surveillée à Cotonou. Le point avec Rodrigue Azinongbe que nous retrouvons à Parakou.
Oui, depuis lundi dernier, c'est une situation un peu difficile au niveau de la ville de Tchaourou, qui est située à un peu plus de 350 km de Cotonou. En fait, tout est parti suite à l'arrestation de quatre personnes qui seraient impliquées dans les événements du jour des élections législatives. Donc, ces arrestations ont provoqué la colère au niveau de la population qui manifeste et qui ont bloqué la voie depuis quelques jours. Donc, hier déjà, la situation était quasi insurrectionnelle avec les policiers ceux qui ont totalement quitté la ville parce que les affrontements étaient devenus très sérieux avec les populations. Et depuis quelques heures, ce sont les chasseurs traditionnels qui ont pris le contrôle de la ville de Tchaourou avec la population qui est totalement enterrée chez elle. Personne n'est dehors à part les chasseurs qui tirent en l'air. Et ce matin déjà, un fort contingent de militaires a pris la route de Tchaourou depuis Cotonou, en renfort à quelques militaires qui étaient sur place. Donc les militaires sont déjà aux abords de la ville de Tchaourou, où tout le monde retient son souffle. On attend de voir comment ça va se passer. Est-ce que les négociations entre les différentes parties vont aboutir, ou bien est-ce qu'il y aura une intervention de l'armée pour mettre fin au blocus de la route inter-État numéro 2 qui relie Cotonou à Malanville, au nord du pays? On attend de voir ce que cela va donner.
Rodrigue Azinongbe, journaliste à Parakou, dans le nord du Bénin.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Algérie, plusieurs ex-ministres ont été arrêtés. L'ancien premier ministre Abdelmalek Sellal a été transféré dans une prison de la banlieue d'Alger pour rejoindre l'autre ancien chef du gouvernement, Ahmed Ouyaïa. Le point à Alger avec Mehdi Alioui.
Ils étaient ex-ministres, responsables locaux et hommes d'affaires sous le règne de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ils sont désormais derrière les barreaux après avoir été entendus dans des enquêtes pour corruption, dilapidation de deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. Après Ahmed Ouyaïa, c'est au tour de Abdelmalek Sellal et Amara Ben Younes, respectivement ex-premier ministre et ex-ministre du commerce, d'être placés sous mandat de dépôt à la prison Al-Harrach dans la banlieue d'Alger. Est-ce le sursaut d'une justice désormais libre, comme le répétait Gaït Salah, nouvel homme fort de l'Algérie, ou plutôt une comédie à laquelle joue le pouvoir en place pour se régénérer? Pour l'avocat Abdelghani Badi, dans une déclaration à VOA Afrique, le pouvoir ne fait que sacrifier des têtes pour calmer le mouvement populaire.
Ce pouvoir est comme un corps qui se débarrasse peu à peu des organes infectés pour survivre. Il veut aussi convaincre l'opinion publique qu'il y a un réel changement. La vérité est que ce système est toujours le même, mais il subit des conflits intrinsèques, des règlements de compte. Il s'auto-dévore pour survivre. Il joue ses dernières cartes en abattant des têtes.
Dans la rue, les Algériens ont bien accueilli les nouvelles des arrestations de ces ex-responsables. Néanmoins, de leur avis, le mouvement populaire ne doit pas cesser, puisque cette justice fonctionne toujours au téléphone. Khaled, jeune citoyen algérien, en veut pour preuve le manque de transparence sur ces affaires.
Bien sûr, en tant que citoyen, on est en train de suivre de près les affaires en justice qui se déroulent actuellement au niveau de la Cour suprême. Malgré, il y a peu d'informations qui sortent, mis à part ce que publie la presse nationale. Ce qu'on demande, c'est une clarté et une transparence dans les jugements. Et on veut que ces juges et cette justice rendent publics les détails des jugements.
Mehdi Alioui, VOA Afrique, Alger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, la décision du président Donald Trump d'engager un bras de fer avec la Chine sur le déficit de la balance commerciale bénéficie du soutien unanime du Congrès. Cependant, des aspects de son approche suscitent le doute et la résistance chez certains législateurs. Voici le reportage de Michael Bowman, présenté par Lionel Gaïma.
La Chine était l'un des soucis majeurs du président Trump quand il s'était adressé aux deux chambres du Congrès en février 2017.
Nous avons perdu 600 000 emplois manufacturiers depuis que la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce.
Tout comme lors de ses récents meetings politiques.
Si donc j'ai annoncé que nous augmenterons les droits de douane sur les produits chinois et nous n'allons pas reculer jusqu'à ce que la Chine cesse de tricher et de voler nos emplois.
Les précédentes administrations américaines avaient, elles aussi, décrié les pratiques commerciales chinoises. Cependant, le président Trump est le premier leader américain à prendre des mesures de rétorsion, ce qui lui vaut des applaudissements des législateurs, comme le sénateur républicain James Rich.
We won't stand for our ideas and technologies being stolen.
Si nous ne nous défendons pas contre le vol de nos idées et de nos technologies, nous ne pourrons pas empêcher que nos concitoyens perdent leur emploi et fassent les frais d'une compétition déloyale.
Un avis que partage Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.
We gotta do something about China.
Nous devons faire quelque chose concernant la Chine, sinon l'Amérique ne sera plus une puissance économique forte d'ici 10 ou 15 ans.
Pourtant, certains républicains s'inquiètent des conséquences de la guerre commerciale, dont la sénatrice républicaine Joni Ernst.
Un emploi sur cinq dans l'État de l'Iowa dépend directement du commerce.
Ériger de nouvelles barrières commerciales avec des droits de douane et des quotas ne constitue pas une solution à long terme, d'après le sénateur républicain Chuck Grassley. Les querelles tarifaires avec le Canada, le Mexique, l'Europe et le Japon ont affaibli la position américaine dans les négociations avec la Chine, estime de son côté le sénateur démocrate Chuck Schumer. Le président Trump entend malgré tout poursuivre sa stratégie, car selon lui, c'est un excellent outil de négociation et génératrice de revenus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En 2009, Jesse Morton, alors grand propagandiste d'Al-Qaïda en Amérique, a lancé une publication en ligne intitulée « Jihad Recollections », qui a donné naissance quelques années plus tard au magazine du groupe État islamique Dabiq et Rumia. Ce même propagandiste aujourd'hui est un homme différent. Il s'inspire des pratiques de l'ancienne publication. Il a lancé notamment un nouveau magazine, cette fois dans le but de contrer la propagande djihadiste en ligne. Voici un reportage de Massoud Farivar. Le récit est d'Arzouma Compaoré.
Deux magazines sur papier glacé, deux images. L'une glorifie le califat. L'autre montre sa violence.
Nous utilisons un modèle et un support qui ont eu un succès incroyable dans le cercle du djihadisme. Grâce à cela, vous pouvez les atteindre et mettre fin à leur héritage.
Morton était autrefois le principal propagandiste américain d'Al-Qaïda et créateur de Jihad Recollections, le premier magazine de propagande djihadiste. Mais depuis, il a renoncé à la violence. Il fait maintenant la promotion d'un message différent par le biais de son nouveau magazine intitulé Ahul Taqwa.
Plutôt que de montrer des photos des personnes en train de tuer, comme si c'était une bonne chose, nous montrons des photos des personnes décédées dans la rue où se trouve une poupée à côté d'un sac mortuaire.
La publication de 39 pages rivalise avec les magazines djihadistes en qualité de production, mais offre surtout une vision très différente du groupe État islamique. Dans une lettre à l'éditeur, Morton écrit « Ahul Taqwa ne cherche pas à tuer ces individus, mais à tuer leurs idées fausses et leurs idéaux erronés ». Mitch Silber, ancien directeur des services de renseignement du département de la police de New York, est le partenaire de Morton.
Clairement, le message, l'idée de Daesh, le mouvement est toujours là, même si l'organisation, le califat physique, a pris un coup.
Le nouveau magazine a certes suscité un débat civil, mais il a également entraîné des menaces de mort contre ses créateurs.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Michel Joseph. À la console, Patrick Déa. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui pour ce soir. Mais on reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous, bien sûr, également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à